Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Transmutation! Et maintenant, quand vous voulez.
Il ne fallait que 0,05 de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la même scène, mais au ralenti.
Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. Alors, une spéciale sortie bouquin qui va être variée. On va démarrer par un peu de 9e art avec Shin Zero tome 1 de Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin. Et on enchaînera ensuite avec Club de Livre 2 Excalibur de Florent Maudou. Alors ces deux BD sont parues chez Rue de Sèvres et elles sont issues du label 619. On causera également d'un livre de cinéma, un livre sur le cinéma, un genre à soi, un livre collectif publié dans la collection Phase B chez Playlist Society. On restera dans le cinéma, mais aussi un peu dans le gore, avec H.P. Lovecraft, Réanimateur de Jeff Rovin, préfacé par Brian Newsna, qui est le nouvel opus de la collection Compact Horror, l'opus 6 très exactement. Ça, c'est disponible chez Faute de Frappe Édition. On causera, on va rester encore dans un univers issu d'un univers gore, La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia aux éditions La Talente. Alors Philippe Battaglia, on le retrouvera pour un entretien où il nous parlera de son ouvrage. Et puis on terminera, alors là c'est encore plus flippant parce que ce n'est même pas de la fiction, c'est la réalité, par Maudite Demeure de Philippe Di Folco et Bertrand Pavlik, paru aux éditions du Rocher. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sylvana Bergonzi, Camille Montero, Florence Schluchter-Robbins, Marc Falvo et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. À mes côtés pour causer, sortie bouquin, Moi, je crois que c'est l'autre type qui lit autant de livres que moi. Hein. Je vais bien sûr parler de... Dans cette rédaction, en tout cas. Je vais bien sûr parler de Thomas Rolandi, le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Jérôme, et bien évidemment, salut à toutes.
Je suis venu, figure-toi, mon ami Thomas, avec quelques bandes dessinées sous le bras et quelques bandes dessinées issue des éditions Rue de Sèvres et du label 619, qui est un label que j'adore. Hein. Maintenant, les habituels auditrices et auditeurs de Culture Prohibée savent à quel point j'aime ce que produit ce label. Et là, on peut dire qu'ils nous ont gâtés avec deux sorties vraiment incroyablement réussies, dont une pour moi qui est une surprise. Je pense que c'est une des meilleures BD que j'ai lues en début d'année. En l'occurrence, je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs, parce que je suis un peu en retard, elle est sortie depuis quelques temps quand même. C'est Shin Zero tome 1, signé Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin. Alors c'est le premier tome d'une série qui en comptera normalement 3 et qui est consacrée à l'univers du Sentai. Sais-tu ce qu'est le Sentai, mon cher Thomas ?
Absolument pas.
Eh bien, tu connais en fait le Sentai. Tu connais Power Rangers, tu connais Ixor, Spectreman. Et oui, le Super Sentai, en fait, ou le Sentai tout court, hein, c'est ces personnages costumés. Alors, Power Rangers, c'est une variation américaine. Après, les Américains ont récupéré ça, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire. Les Inconnus en ont fait un sketch, hein, d'ailleurs, hein, inspiré de Bioman aussi, hein, qui, en fait, ce sont des séries en live, attention, c'est pas de l'animation, ou des super-héros. Alors, soit ils ont des armures moulantes, façon Spectreman, hein, des armures qui plissent un peu. Spectreman que je vénère. Et encore plus, Ixor, j'ai le coffret DVD, hein. Je peux me refaire les Ixor. Là, c'est un vrai bonheur pour moi. C'est vraiment mon enfance, hein, faut le dire aussi. Qui vont sauver le monde. Et la plupart du temps, contre des menaces, contre ce qu'on appelle des kaijus, c'est-à-dire, ça tu connais mieux les kaijus, hein, voilà, ces gros monstres typiques, voilà, il y a Godzilla par exemple, mais il y a surtout, alors Godzilla un coup il est gentil, un coup il est méchant, mais il y en a un que j'aime beaucoup moi, qui me fait bien délirer, c'est la mythe géante Mothra, voilà, parce que quand même la mythe géante, ça c'est une sacrée saloperie, c'est la fin de la laine sur Terre, quoi, voilà, donc j'ai envie de dire, halte à la mythe géante, voilà, mais néanmoins, voilà, on a grandi avec cette grande de tradition, de ce type de, parce que ça existe en gros depuis le milieu des années 70 au Japon, de super-héros un peu particuliers qui peuvent paraître kitschon aujourd'hui, mais moi franchement je kiffe. Et évidemment je kiffe revoir ce que j'ai vu pendant mon enfance, des Sentai d'aujourd'hui, je pense que ça m'intéresserait moins, mais c'est une erreur d'ailleurs, je pensais que ça allait moins m'intéresser de me dire qu'est-ce qu'il va nous faire avec, qu'est-ce qu'ils vont nous faire en BD avec une histoire de Sentai, qu'est-ce qui peut être fait. Alors c'est, oui, on sait, les Sentai, ces super-héros qui combattent des kaijus, donc souvent des monstres, et souvent qui traduisent en fait une peur de l'apocalypse nucléaire. C'est normal, hein, puisque de toute façon, après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, les Japonais sont restés vraiment traumatisés. Et puis alors maintenant, s'ajoute aussi la catastrophe de Fukushima. Donc généralement, ces kaijus sont l'expression de ces peurs-là. Et les Sentai sont les seuls qui peuvent nous sauver. Et à partir de là, eh bien, Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin, qui ont une connaissance très pointue de, en tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils l'ont maintenant, s'ils ne l'avaient pas avant de faire cette BD, sont extrêmement documentés. Ils décident d'utiliser vraiment tous les archétypes, mais de tout détourner, de tout transformer dans cette histoire de coming of age, comme on dit maintenant, hein, de passage de l'adolescence à l'âge adulte, dans le milieu donc des Sentai, dans un Japon d'aujourd'hui, mais enfin, qui a beaucoup aussi, on va le voir, de corrélation avec la situation politique hexagonale, par exemple. Voilà. Donc là, l'histoire est assez simple. Il y a Warren et Héloïse, ils vivent leur dernière journée de lycée. Ils vont entamer une nouvelle étape de leur vie. Ils vont aller à l'université, ils vont aller à la fac. Alors, ce sont des amis inséparables depuis l'enfance. Alors, on devine que Warren en pince un peu pour la belle Héloïse. Alors, Héloïse, elle vient d'une famille d'extraction modeste, donc elle va devoir bosser, elle va devoir être Sentai. Alors les Sentai, en fait, ont été dénaturés de leur fonction. C'est-à-dire que les Sentai qui sauvaient le monde, là maintenant, ben, c'est des vigiles de supermarché, c'est des gens qui doivent faire des surveillances à des concerts. Et de temps en temps, ils ont des missions un peu héroïques comme ça. Mais il n'y a plus de kaiju, de toute façon. Donc, ils en sont réduits. C'est une sorte d'agence de sécurité, à l'image de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire où plus rien n'a de sens, tout est dévalorisé. Et les Sentai donc, sont notés via des moteurs de recherche. Ils ont des étoiles après leurs interventions. leur but est de bien être notés et ils n'ont même pas de contrat de travail. Enfin, en tout cas, ils sont régis par les mêmes règles que les chauffeurs Uber. Donc, c'est une ubérisation en fait de la société. D'ailleurs, c'est complètement volontaire. Il y a beaucoup de références à ces types d'exploitation aujourd'hui, cette sorte d'esclavage moderne aujourd'hui qui a réussi quand même à abolir même le salariat et même à abolir le lien de subordination qui existait via le contrat de travail, qui était déjà pourtant très prégnant dans les sociétés capitalistes. Ben là, ça va encore au-delà, dans une société totalement dérégulée. Et donc, les missions sont donc plus du tout, enfin, plus vraiment héroïques. Et Warren, lui, par contre, il est différent d'Héloïse. Son père était un Sentai, visiblement un Sentai mythique, qui a eu à combattre, lui, vraiment des kaijus, qui aujourd'hui est devenu un ouvrier d'usine qui fait les 3-8, dans lequel le fils a un peu du mal à se reconnaître. Le fils, c'est un élève brillant, en fait. Lui, il a une bourse d'études. Donc, il n'a pas besoin, le fils, en fait, d'avoir un job étudiant. Il n'a pas besoin de faire Sentai. Mais en fait, il est amoureux d'Héloïse. Donc, il va s'engager chez les Sentai. Il va aller bosser chez les Sentai. Et évidemment, ils vont devoir loger ensemble. Donc, ils vont trouver une coloc avec une bande d'ados, de jeunes adultes, qui sont tous des Sentai. Alors là, on va voir le quotidien de ces gens-là, et aussi le développement aussi via Internet pour arrondir ses fins de mois, de ce qu'on appelle des cams, c'est-à-dire des scènes plutôt sexy, érotiques, sur des direct live où on s'habille en Sentai pour essayer de récolter un peu d'argent supplémentaire. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment une jeunesse contrainte aux emplois précaires, et on se sert du prestige de ce qu'ont été les Sentai pour leur dire: ah, vous faites un boulot extraordinaire, vous êtes les piliers de la société. Par contre, vous gagnez que dalle, hein. Faut pas non plus exagérer, hein. Vous avez déjà le plaisir de porter un uniforme, faut pas déconner. Uniformes qui sont obligés eux-mêmes de se payer, d'ailleurs, hein. Je dis ça entre parenthèses. Et puis, dans cette bande, il y a donc Héloïse, elle a une grand-mère qui a été, elle, un Sentai très fort, qui a battu des kaijus, qui est hospitalisée. Et on découvre qu'elle, par période, se grossit, se transforme, devient difforme, et on est obligé de la mettre dans des caissons avec d'autres anciens Sentai sur lesquels visiblement l'armée a fait des expériences, mais ça, on n'en saura pas plus dans ce volume. Et à cause d'un gestionnaire fan de Macron, hein, qui texto, hein, dans l'hôpital, dit « Oh, il y en a marre, on les met tout le temps au caisson, on dépense un pognon de dingue, désormais ils ne vont plus au caisson. » Bah, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va se transformer, qui va devenir énorme et qui va devenir le nouveau kaiju. Et là, nos Sentai vont être confrontés à une mission à la hauteur de leur talent, tout du moins pour un des Sentai qui lui rêve vraiment d'affronter des kaiju. On est dans la grande tradition du travail entrepris par Run et le label 619, mais vraiment, on est comme chez Ron, c'est-à-dire qu'il y a ce sens du détail démentiel jusque sur les toutes petites boîtes de lait où il y a des pubs dessus. Tout est ultra référencé. On crée un monde, en fait, totalement nouveau qui évoque une sorte de version dégénérée de notre monde actuel. Ça, c'est passionnant. Les décors sont incroyables. Il y a une idée toute simple et qui fonctionne très bien. C'est que la BD est en noir et blanc, sauf les Sentai quand ils sont costumés. Ça donne un dynamisme et quelque chose de très particulier à la bande dessinée. Il y a aussi, chaque case, je ne sais pas combien de temps ils ont mis à faire cette BD, hein, parce que chaque case fourmille de détails, hein, comme je vous le disais. Et puis, il y a aussi une vision très juste de ce qu'est la précarité, l'adolescence aujourd'hui, et en même temps, c'est bien fun. C'est-à-dire que si un gamin lit ça, il voit un truc de Sentai et ça l'éclate. C'est-à-dire qu'il va être complètement dans les préoccupations qui sont celles de l'adolescence. Il va être complètement dans cet univers de vouloir devenir un héros. Il va complètement adhérer au discours. Donc, moi, je vous conseille vivement, c'est Shin Zero, tome 1 de Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin, qui est paru aux éditions Rue de Sèvres, qui est issu du label 619, et qui, pour moi, est une des plus belles découvertes récentes en termes de 9e art. Donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle Shin Zero tome 1, et visiblement ce manga français, qui est publié dans le sens de lecture européen, rencontre un énorme succès, donc je pense que la série est appelée à devenir assez culte.
«
vous écoutez Culture Prune. Toujours le label 619, toujours chez Rue de Sèvres. Alors je vous avais parlé du tome 1, là on est sur le tome 2 de Clovd. Clovd, plutôt livre 2 d'ailleurs, hein. Livre 2 qui s'appelle Excalibur. Je suis pas en de vous expliquer la référence. Alors, c'est signé Florent Maudou. Alors Florent Maudou, on en avait parlé dans l'émission pour A Short Story, qui était l'illustration de l'affaire du Dahlia Noir en BD. Une illustration qui se voulait au plus près de la réalité, où Run avait fait le scénar d'ailleurs. Enfin, il y avait un gros boulot de ces deux auteurs. De toute façon, moi je trouve qu'aujourd'hui, le label 619, c'est ce qui se fait de mieux en BD française. Hein. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, peut-être aussi parce que j'ai grandi avec des comics, mais en tout cas, pour moi, qui a mieux digéré les références pop, pour faire quelque chose, pour se les approprier et faire vraiment un autre univers. Et là, le Clovd, on va rappeler un peu le tome 1, ce que c'est, s'inscrit dans un autre univers, hein, dans l'univers Freaking Squeal, qui est un univers également développé par Maudou. Il y a toute une série, hein, il y a plein de BD. Alors, si on n'a pas lu les autres BD, hein, si on dit que la saga Clovd, on n'est pas perdu, hein, c'est pas gênant. Si on les a lus, c'est mieux. Alors, le tome 1, c'était quoi ? C'est l'histoire du Clovd, qui est une brume impénétrable, donc qui a recouvert le monde, parce qu'il y a le sujet de l'Anthropocène qui est là, qui est très présente, et qui, renvoie l'humanité donc à des périodes ancestrales. Et donc, on a des monstres cauchemardesques qui reviennent, on a un monde qui vit dans le chaos. Et qui détient la clé pour sauver le monde, peut-être Isatis, donc une guerrière immense au cœur d'adolescente, qui ratisse la lande pour extraire les ouvrages qui pourraient détenir les secrets d'une civilisation éteinte. Et malgré tout, sa mission première reste toutefois de dissiper le Clovd de revenir dans un monde plus vivable. Et dans le tome 2, donc on est toujours après l'apocalypse, on est toujours l'humanité qui se terre dans des bunkers, on est toujours sur une à la recherche d'une planète vierge de Clovd, qui renvoie d'ailleurs aux élucubrations d'un Elon Musk un peu dans le début là. Et puis sont organisées des battles royales, pareil référence à Fukasaku, des batailles royales donc, et il y a une certaine Kathleen qui arrive à s'enfuir, qui rejoint le monde extérieur. Et là, elle va croiser Isatis et ses compères, dont Funérailles. Et à partir de là, tout ce petit monde va se mettre en route pour une sorte de tournoi annuel qui a lieu dans cet univers post-apocalyptique. Un tournoi bon enfant. Hein. C'est le retour de la gironde et érudite Isatis. Parce que c'est important qu'elle soit gironde, hein, on en reparlera plus loin. Plus belle et puissante guerrière, dont la sagesse n'a d'égal que sa grande humanité et son humour quand même assez dévastateur, il faut le dire. Alors, plus que jamais, Clovd se révèle être une BD référentielle, non pas à la SF en littérature, mais plutôt au cinéma. Il y a des références à la planète des singes, version Franklin J. Schaffner, au soleil vert de Richard Fleischer, donc au Battle Royale de Kenji Fukasaku, au Frankenstein de James Whale, plus qu'au bouquin d'ailleurs. Il y a même des références aux jeux vidéo, à Castlevania par exemple. Alors c'est des influences plutôt bien digérées, parce que si on ne les a pas, ça n'a aucune importance, hein, pour l'évolution du récit. Et puis côté littéraire, on est plutôt sur la fantasy, hein, et la légende arthurienne là énormément dans ce livre 2. Et Florent Maudou, donc, il digère vraiment magistralement toutes ces influences. Et il arrive même à faire se croiser le carnaval de Venise, les Transformers, les arènes romaines, le parc Astérix, le parc Astérix, très clairement, pour terminer par un hymne aux formes généreuses donc de la belle Isatis, et par le girl power, hein, par le biais du striptease. Voilà, donc c'est quand même assez original tout ça, mais le plus important, ça reste la mission de nos héros, qui est quand même portée dans un monde anthropocène par une volonté de préserver le savoir et la transmission. Et ça, je trouve que c'est assez important, parce que souvent, dans les récits post-apocalyptiques, le but est de survivre et on se fout sur la gueule. Là, le but, quand même, c'est de ramener l'humanité à l'humanité. et non pas d'éliminer les ennemis, mais plutôt, ça c'est hyper intéressant, c'est un peuple très diplomate, et par le biais d'Isatis, ils essayent le plus souvent, en fait, de régler les conflits par la diplomatie et non pas par la violence. Bon, ça n'empêche qu'il y a un peu de baston, hein, quand même, évidemment, vous vous en doutez. Donc, graphiquement, c'est une merveille. Bon, je comprends qu'il ait mis un peu de temps à faire ce volume, hein, parce que c'est une merveille. Dessin foisonnant, une mise en couleur sublime. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, qu'on soit amateur ou pas du Freak Squill Universe, on ne peut que adorer cette BD qui est indispensable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment, pour moi, ces auteurs-là, ils ont vraiment revigoré la BD française, bien loin de l'autofiction ou du message politique lourdingue, voilà, ou des injonctions d'aujourd'hui. On est dans autre chose, et pourtant, ce sont des BD bien dans leur époque. Hein. Et pour moi, le label 619, avec ces deux BD de Nougat, donc je vous les conseille plutôt deux fois qu'une. Donc, Clove, de Livre 2, Excalibur, de Florent Modou, et Shinzero, tome 1, de Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin, donc label 619, édition Rue de Sèvres. On va maintenant quitter le 9e art pour le 7e art, mon cher Thomas. Je vais vous parler d'un livre paru chez Playlist Society, qui est un livre de Judith Beauvallet, Axel Cadieux et Quentin Mével. Alors, Judith Beauvallet, on peut la lire sur écran large. Axel Cadieux, c'est le rédacteur en chef de Sofilm, je crois qu'on ne le présente plus. Et puis, Quentin Mével, il a déjà fait plusieurs livres d'entretien. On l'a déjà reçu dans l'émission. Il avait signé un super livre sur Laurent Canté, un autre sur Patricia Mazui. Donc on a déjà échangé dans cette émission avec cet auteur. Et là, il vient donc avec ses deux compères nous donner à lire un livre d'entretien qui s'appelle « Un genre à soi » et qui est un livre d'entretien avec celles et ceux qui font le cinéma de genre en France. Et c'est assez intéressant. Bon... Il y a la partie Coralie Farja, moi j'accroche pas à son cinéma, j'accroche pas à son univers, qui m'intéresse moins dans le livre. Mais pour moi, tout le reste, tous les autres entretiens sont assez étonnants. Il y a Cassandre Varnotz qui est productrice et Marc Missonnier qui est producteur. Ces deux entretiens-là, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important à lire dans l'ouvrage, puisque ce sont des entretiens qui nous permettent de comprendre. Ils sont passionnants et ça nous permet de comprendre les mécanismes de la faisabilité du cinéma de genre en France. Missonnier, il a longtemps... Enfin, il est dans l'ombre de plein de films de genre français, souvent fauchés. Enfin, pas toujours, hein, mais souvent fauchés. Enfin, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On comprend mieux pourquoi en lisant le livre. Et là, il est à l'origine, par exemple, d'un film vraiment très bien qui est sorti en 2024, qui s'appelle 37, L'ombre et la proie, qui est vraiment un film qui a eu une sortie quasi confidentielle. Hein. Thomas opine du chef. Oui. Thomas est toujours intéressé par des films avec une ombre et une proie, n'est-ce pas ? Donc, il y a ces échanges qui sont donc très passionnants parce qu'en fin de compte, découvrir vraiment ce qu'est le métier de producteur, on s'en fait souvent une idée parce qu'on a une idée de ces producteurs un peu, comment dire, qui mettent leur propre argent, qui sont des producteurs d'une autre époque, Alain Sard, tout ça. Enfin, aujourd'hui, ce sont des producteurs, plutôt des producteurs salariés, et qui sont des vrais combattants, en fait, pour faire exister le cinéma de genre. Parce qu'ils ne sont vraiment pas obligés de le faire. Il y a des choses... Alors, Ludovic et Zoran Boukarma, je suis moins fan de leur cinéma, donc voilà. Mais l'entretien est quand même intéressant, même si je suis moins fan de leur cinéma. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... Alors, évidemment, Sébastien Vanitschek. On a bien aimé Vermine, on l'a dit dans cette émission, qui est intéressant parce qu'il a un parcours atypique, qui bosse là sur le nouveau Evil Dead, hein, parce que Sam Raimi a beaucoup aimé Vermine. Et on a... espérons qu'il relance enfin la franchise avec un bon film. Et on a aussi, moi, ce qui m'a surpris, par exemple, l'interview de Manuel Dacos. Alors, Manuel Dacos, qui a beaucoup éclairé, par exemple, le travail de Fabrice Duvels ou Kate Forzani. Et il avoue qu'en fait, il n'est pas fan de Diallo et qu'il trouve que c'est des films mal éclairés. C'est assez marrant. Parce que moi, je le voyais plutôt fan de Diallo, surtout quand je vois le remake du Litvak, la jeune fille dans l'auto avec un fusil, le remake signé Johann Sfar, qui est photographié par Dacos. Et on a vraiment un univers de Diallo et qui ne ressemble pas aux autres films de Johann Sfar. Donc j'étais étonné et je pensais que ça venait vraiment de Dacos. Et visiblement, il n'est pas trop fan. Lui, c'est pas forcément sa cam. Donc ça, c'est partie des choses qu'on découvre dans ce livre. Et puis, moi, ce que je trouve très intéressant aussi ce que je mets en deuxième position derrière les entretiens avec les producteurs, c'est l'entretien avec Olivier Afonso et Frédéric Lenné sur les effets spéciaux. Parce qu'ils expliquent pas mal de choses, et en particulier, ils expliquent l'aspect déceptif que produit, alors ça c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu parler dans un entretien sur des concepteurs d'effets spéciaux. Généralement, c'est des entretiens qui ne m'intéressent pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de savoir comment on fait les effets spéciaux d'un film. Moi, je veux être dans la magie du cinéma. Si je suis emporté par une histoire, de toute façon, je m'en fous que les effets spéciaux soient bricolés. Ça ne me gêne pas du tout. Et là, ils nous expliquent en fait le côté déceptif. Quand ils présentent leur travail, par exemple à Thomas Caillet pour Le règne animal, qu'ils s'attendaient totalement à autre chose, qu'ils avaient des ambitions démesurées, et ils l'ont ramené à la réalité en lui parlant de budget, en lui parlant de ce qui était techniquement faisable. C'est vraiment intéressant de lire ça, parce que ça donne une autre image, alors que pourtant, quand on voit le film de Thomas Caillet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime beaucoup, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas des effets on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des effets spéciaux cheap, hein, c'est bien au contraire, hein, c'est des effets spéciaux particulièrement beaux, voire même poétiques. Voilà. Donc vraiment ce livre, donc qui s'appelle Un genre à soi, qui est paru chez Playlist Society, ce livre de Judith Beauvallet, Axel Cadieux et Quentin Mével, et pour moi un livre que je vous conseille vivement, parce que c'est vraiment un livre pour comprendre comment on fait du cinéma de genre en France, et c'est vraiment un livre qui exploite son sujet à fond et qui se contente pas de faire du fan service dans les entretiens. Là, on a vraiment le comment du pourquoi. Voilà. Donc, je vous recommande vivement, ça s'appelle Un genre à soi et c'est disponible chez Playlist Society. Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie bouquin. Je vais rester encore un peu dans l'univers du cinéma, mais je ne vais plus vous embêter très longtemps parce que je vois que mon chroniqueur Thomas Roland s'impatiente. Il dit, il n'y en a que pour lui, on voit que c'est son émission. Et donc, je vais vous parler d'une novélisation signée Jeff Rovin, une novélisation qui est le numéro 6 de la collection Compact Horror, qui est parue chez Faute de Frappe Édition et qui s'appelle H.P. Lovecraft, donc Howard Philip Lovecraft, Lovecrafts, avec un apostrophe S, Réanimator. Eh oui, l'ami Marc Valvo, donc éditeur amateur de gore, hein, donc il a des goûts très sûrs quand même, hein. Après avoir republié dans une édition augmentée, le travail monumental de David Didlot sur la collection Gore, travail auquel avait participé un certain Thomas Roland qui est en face de moi, voilà, si je ne m'abuse, accompagné d'ailleurs d'un ouvrage, Le bel effet Gore, qui était un... on avait parlé de tout ça dans l'émission, on avait invité les auteurs et l'éditeur, et il s'attache aujourd'hui à relancer, surtout d'ailleurs après la fin de la collection Carnage, dont on a aussi pas mal parlé dans l'émission, une collection digne de la défunte collection Gore, avec la collection Compact Horror, collection quand même gore, mais plus dans la novélisation de films connus ou dans des extrapolations sur des films connus. J'y reviens. Par exemple, dans cette collection, on a revisité, parmi les mythes du cinéma populaire que l'on aime nous, hein, les mythes du cinéma horrifique, donc La Nuit des Morts Vivants, Wishmaster, Slugs, Amityville, une extension là, signée David Didlot, et Freddy Krueger. Et cette fois-ci, c'est le mythique et culte Réanimator, hein, qui passe à la moulinette, hein, et qui est honoré donc, via sa novélisation par Jeff Rovin. Alors, avant de plonger dans cette novélisation, dans H.P. Lovecraft's Réanimator, on peut dévorer, je dis bien dévorer, mais elle est trop courte, la préface d'un producteur et réalisateur mythique, Brian Yuzna, producteur donc de Réanimator, de Stuart Gordon, réalisateur de ses suites, mais aussi des cultissimes Society et Le Dentiste, pour tous les amateurs de fraises. Il nous enchante par là ces anecdotes savoureuses et pluvieuses d'ailleurs sur l'accueil positif de Réanimator au marché du film de Cannes en 1985. Il nous explique bien aussi comment la sortie du film a été comment dire, plutôt foirée, hein, par la boîte Empire aux USA, et comment est née la novélisation de ce film culte. Et cette novélisation, on va enfin en parler, voilà, elle est signée du prolifique Jeff Rovin. Alors Jeff Rovin, que je ne connaissais pas, moi, avant d'avoir cette novélisation sous les yeux, il a signé plus de 130 bouquins, il a été rédacteur-chef du Weekly World News, et là, il nous fait voyager, avec bonheur pour moi, parce que c'est un film de mon adolescence, hein, dans une époque bénie, celle donc justement je découvrais tous ces films extraordinaires par le biais de vidéoclubs, et puis même parfois on arrivait à les voir en salle malgré certaines interdictions. Enfin bref, là je m'égare, mais je vais quand même rappeler aux Béotiens ce que raconte ce livre. Ce livre, c'est l'histoire de Herbert West. Herbert West, c'est un génie complètement taré qui a vaincu la mort. Voilà, c'est une sorte de... C'est le Colin Clive du Frankenstein de James Whale, puissance 1000. Voilà, c'est le docteur Frankenstein d'aujourd'hui. Il arrive à réanimer les morts, bon, après, avec des techniques pas toujours très glorieuses, avec des expériences pas toujours très sympathiques. Alors, le tout dans un contexte de faculté où il va provoquer la jalousie d'un de ses professeurs, où il va avoir des problèmes avec son colocataire, et on ne reviendra pas encore sur cette incroyable scène de Cunilingus, qui est une des scènes les plus démentes de l'histoire du Cunilingus au cinéma, pour peu qu'il y ait une histoire du Cunilingus au cinéma qui soit écrite un jour. D'ailleurs, avis aux érudits. Où Rovin est assez fort quand même, c'est qu'il reprend le délire donc érotico-gore dont je viens de vous parler, de Stuart Gordon, qui n'est pas vraiment fidèle du tout à l'univers de Lovecraft. Hein. C'est la base. La base, c'est le fait d'avoir ce personnage qui réanime les morts, mais on s'arrête là. Le film va ailleurs. Et justement, le livre va aussi ailleurs. On retrouve le film, mais il ne prend pas les dialogues stricto sensu. Il va au-delà de nous faire éprouver ce plaisir que j'évoquais à l'instant, hein, lorsqu'on revisionne un film culte. Et il ajoute des scènes aussi au film qui permettent de développer l'intrigue de manière plutôt pertinente. Et au final, il signe un livre dans un style très efficace, c'est du bon boulot. C'est du boulot de Page Turner, comme aujourd'hui, un Page Turner aguerri. Et donc, ça permet quand même de bien prendre son pied, de lire un bon petit livre gore. Et ça ne va pas révolutionner l'histoire de la littérature, mais c'est parfait pour un Paris-Nice en TGV. Voilà. Donc, pour aller voir les studios de la Victorine, bien évidemment. Donc voilà, ça s'appelle H.P. Lovecraft Réanimator. C'est signé Jeff Rovin. C'est préfacé par Brian Yuzna. Et c'est le volume 6 de la collection Compact Horror qui est disponible chez Faute de Frappe Édition. Et un autre adepte du gore en littérature, mon cher Thomas, c'est Philippe Battaglia, qui quitte là les Alpes suisses.
Et oui, repens-toi, pauvre pêcheur, toi qui fais la promotion d'œuvres impies, car la fin du monde est proche. Oui, saint Philippe Battaglia l'annonce dans son évangile, la dernière tentation de Judas. Il rétablit la vérité sur la véritable relation entre Judas et Jésus, et aussi sur les apôtres. Les compagnons du Christ ne sont pas morts, non. Immortels, ils sont parmi nous, sur terre, et évoluent dans des situations plus ou moins bonnes. D'ailleurs, dotés de super-pouvoirs, ne sont-ils pas les véritables inspirations des super-héros qui abondent dans les comics et qui ont, depuis, envahi les écrans de cinéma? Cet évangile s'attache plus particulièrement à suivre l'errance de Judas dans la Rome des déclassés et des marginaux. Considéré comme un traître par ses pairs, il vit tel un paria, sans domicile fixe, dans la honte d'avoir livré Jésus aux Romains et à la vindicte populaire. Mais n'est-ce pas le sort réservé aux révolutionnaires? Judas, donc, ne pense qu'à une chose, pouvoir retrouver le Christ pour lui expliquer la manipulation dont il a été victime. La rencontre avec un prêtre suicidaire va lui permettre de pouvoir enfin se racheter. Au nom de la fiction de la liberté de conscience, Esprit de Sérieux sort du corps des potentiels lecteurs. Bien qu'érudit, l'évangile de saint Philippe Battaglia est un texte à ne certainement pas prendre au premier degré, tellement il joue avec les codes, les figures et les représentations que nous nous faisons de la Bible et de ses personnages. Comme dans la Torah, il y a beaucoup d'actions et de passages gore, sauf que la dernière tentation de Judas s'autorise quelques largesses et beaucoup d'humour. Dans le plus pur esprit de la littérature populaire, ce livre relate une quête mystique et fantastique que n'aurait pas renié un Indiana Jones, avec moult poursuites et destructions que n'aurait pas renié Michael Bay, ainsi que des combats homériques entre apôtres et l'apparition de démons qui se livrent à une sanglante fin du monde, tel qu'en rêvait Damien Forne. Horreur, malheur et dérision sont bien les maîtres mots de cet apocalypse. Derrière l'humour et l'envie d'offrir une histoire foisonnante pleine de suspense et de péripéties, saint Philippe Battaglia ne se moque pas de la religion, ne juge pas ceux qui cultivent la foi en une entité supérieure, mais plutôt les hommes de pouvoir, les manipulateurs, les garants d'un certain ordre moral et autres gardiens du temple, les mégalomanes dont la domination est le seul horizon. L'évangile de saint Philippe Battaglia préfère, comme dans le Nouveau Testament, donner les bons rôles aux laissés pour compte de la société, les sans-logis, les femmes, en particulier les prostituées qui sont ici décrites comme de véritables héroïnes. Tous ceux qui subissent l'opprobre des puissants et à tous les autres qu'une certaine bonne société se contente d'exclure. L'intrigue fait voyager ses personnages de l'Italie au Kenya, en passant par les États-Unis et l'Europe de l'Est, présente une galerie de personnages décalés, mais décrit avec tendresse, résout l'énigme de Jack l'Éventreur dans une fresque où se mélangent les genres et les époques avec le même enthousiasme. Une bonne partie du livre, dont le final, se déroule à Rome et non à Florence, la ville natale de Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie, mais cela n'empêche pas saint Philippe Battaglia d'offrir de véritables visions d'apocalypse dantesque. De quoi rendre quelque peu jaloux saint Jean qui, d'ailleurs, en est l'un des acteurs principaux. Tout cela fait de la dernière tentation de Judas un roman à la fois fantastique et drôle, qui procure une fin du monde bien plus drôle que celle qui se profile et que ni saint Jean ni saint Philippe Battaglia n'avaient vu venir. La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia est parue aux éditions L'Atalante.
Mon cher Thomas, quel enthousiasme! Tu sais que tu nous donnes très envie de lire La dernière tentation de Judas, signé Philippe Battaglia, paru aux éditions L'Atalante. Moi, ce que je te propose, mon cher Thomas, justement, c'est de contacter Philippe Battaglia par le biais de cet instrument magique qu'est le téléphone. Tout de suite, Philippe Battaglia au micro de Culture Prohibée. écoutez Philippe Battaglia, auteur de La dernière tentation de Judas, disponible aux éditions La Talente, au micro de Culture Prohibée.
Philippe Battaglia, maintenant que vous avez accompli votre forfait, c'est-à-dire écrit et publié La dernière tentation de Judas, n'avez-vous pas peur de retirer en enfer ?
J'espère, on y rigole plus, je crois. Non, plus sérieusement, je crois pas du tout, parce que c'est pas un texte. Ça peut être un petit peu blasphématoire, jugé blasphématoire par le sujet, mais ça, c'est pas du tout le but. Moi, je l'ai pas du tout écrit dans un but de provocation. Non, au contraire.
Philippe Battaglia, vous êtes l'auteur de plusieurs romans et nouvelles, dont certains parus dans la collection Gore des Alpes. Et La dernière tentation de Judas est un projet que vous portiez depuis longtemps. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet, son importance dans votre bibliographie ?
C'est un projet que j'ai commencé en 2019. Donc, j'ai joliment mis 5 ans pour l'écrire. Donc, c'est vrai qu'il m'accompagne depuis un petit bout de temps. Quand je l'ai commencé, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, donc il y a eu pas mal de bouleversements entre deux. Et puis, quand un projet vous accompagne aussi longtemps, inévitablement, il prend une part extrêmement importante, c'est-à-dire que presque tout ce que vous consommez en termes de culture, que ce soit des films, des livres, même de la musique, pourquoi pas, un petit peu tout finalement se retrouve dedans. Ou en tout cas, à chaque fois, on se pose la question, on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait être intégré ou pas ? Si oui, sous quelle forme ? Parce que je pense que créer, c'est avant tout consommer donc je parle de culture évidemment, donc tout ce que j'ai pu voir ou autre et d'une manière ou d'une autre s'est retrouvé dans ce bouquin, et c'est vrai qu'il m'a accompagné pendant très longtemps. J'étais assez soulagé quand il est sorti de pouvoir enfin tourner la page, m'occuper un petit peu d'autre chose, parce que 5 ans de recherche, de rencontres, c'est long. Je crois que ma femme était pas mal soulagée aussi que j'arrête enfin de lui parler de la Bible.
Comment est né ce projet, hein, qui est aussi à la fois un peu irrévérencieux mais qui n'est pas non plus vulgaire, qui ne se moque pas non plus de la Bible, mais qui est aussi plutôt iconoclaste. Comment est-il né ?
Il est né, je dirais, comme toutes les belles choses, il est né un petit peu d'une blague. C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire d'autres... Je travaillais sur d'autres manuscrits qui finalement n'ont jamais vu le jour. Et puis, en note de bas de page d'un de ces textes, je supposais que Jésus et Judas avaient peut-être une relation. Et puis, cette idée, elle a continué à tourner dans ma tête au point que j'ai abandonné les manuscrits sur lesquels je travaillais à l'époque pour me lancer là-dedans. Et puis, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, moi, je suis suisse, j'habite en Suisse, dans le canton du Valais, qui est un canton extrêmement catholique. Parfois au sens pénal du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai baigné moi dans ce catholicisme depuis tout petit. J'ai fait mon catéchisme. Et ce personnage de Judas, moi, il m'a toujours fasciné parce que c'est le grand méchant, en tout cas du Nouveau Testament, celui qui a trahi le Christ, bien qu'il ait suivi son enseignement pendant 3 ans. Et ça m'a toujours un petit peu intrigué. Je me suis dit, mais comment un type qui a suivi Jésus-Christ, qui a vu les miracles, qui a vu tout ça, comment il finit par le trahir? Et moi, cette raison pécuniaire, ces 30 deniers, ça m'a toujours semblé un petit peu fragile. Alors quand cette petite blague finalement m'est venue en me disant que peut-être ils avaient eu une relation, je me suis dit, tiens, mais si cette trahison finalement, ça avait été le fruit de cette trahison qui se serait mal passée pour une raison ou une autre, et puis tout est parti de là. Et c'est vrai qu'au départ, ça devait être un texte beaucoup plus court. Et en avançant, je me suis dit, oui, mais attention, si je m'attaque à ce genre de sujet, on va m'attendre au tournant. Donc je me suis replongé dans la Bible, j'ai poursuivi avec les évangiles apocryphes, des analyses, des commentaires, j'ai fait des rencontres, des théologiens, des gens d'église, etc. Et puis il y avait tellement de matière qu'au final, ça m'a paru comme une évidence que ça devait être beaucoup plus qu'une simple blague un peu potache.
Alors, on sent un peu que la religion, ça vous travaille un petit peu, et vous dites que vous avez rencontré des personnalités d'église, etc. Quand vous présentez le projet, comment c'est perçu ?
Alors, je vous avoue que les gens d'église, j'ai pas été très exhaustif dans mes explications. C'était plutôt des choses un petit peu factuelles. Par contre, quand j'ai rencontré des théologiens qui, eux, étaient laïcs, j'étais plus complet. certains ont même lu le manuscrit en entier et j'ai su que j'avais atteint un joli score quand l'un des théologiens m'a demandé où est-ce que j'avais fait théologie. Je me suis dit, bon, ok, là, je suis pas trop mal. Mais parce que, voilà, moi, j'ai pris évidemment des libertés, notamment avec cette relation Jésus-Judas. Là où je ne prenais pas de liberté, je voulais être proche du matériau d'origine, je voulais être proche du texte, que ce soit inattaquable. Et donc, on a des références qui sont à la fois extrêmement pointues et en même temps très vulgarisées, puisque rendues modernes. Et ça, c'est aussi un équilibre. Je suis très content d'avoir réussi à l'atteindre. C'est-à-dire que si vous avez des références, c'est aussi des retours que j'ai de lecteurs qui sont un petit peu dans ce milieu. Si vous avez des références, ça va beaucoup vous amuser parce que vous allez les retrouver un petit peu partout. Et si vous ne les avez pas, ça ne vous empêchera pas de prendre votre pied à la lecture du bouquin ou même d'apprendre des choses, pourquoi pas.
On découvre des choses à la lecture de votre livre. Moi, je me demande comment vous êtes arrivé à ça, comme la secte des Caïnites. Et ça, ce sont des choses que vous avez trouvées au fur et à mesure de vos rencontres. Comment ça s'est passé ?
Alors, la secte des Caïnites, ça ne figure évidemment pas dans la Bible, mais il y a eu des théories, notamment au Moyen-Âge, mais enfin, certains spécialistes ont débunké ces théories, en tout cas avec une théorie, je dirais, contradictoire. Mais il y a eu des théories comme ça au Moyen-Âge sur des sectes satanistes qui se revendiquaient du fils de l'assassin, etc., etc. Mais ça aussi, c'est un personnage extrêmement intéressant, parce que il est évidemment le premier assassin de l'histoire judéo-chrétienne, mais il a aussi rendu mortel l'humanité, puisque son frère est le premier mort de l'histoire judéo-chrétienne. Donc c'est ce double rôle, cette double responsabilité qui est assez intéressante d'un point de vue de l'humanité. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans le... En fait, je lisais la Bible, qui n'est pas un très bon bouquin. Hein, c'est assez fascinant parce que toute notre société judéo-chrétienne moderne découle plus ou moins directement de ça, mais c'est pas un bouquin très très passionnant à lire parce que c'est mal écrit. Enfin, c'est voilà, il y a beaucoup de répétitions, c'est des mots simples, il y a pas beaucoup de poésie à part peut-être dans les cantiques, mais enfin c'est pas très fun à lire. Mais à chaque fois qu'il y avait un passage un petit peu intéressant, je prenais note des chapitres, des versets, je me disais tiens, ça, est-ce que je vais pouvoir l'intégrer ou pas. Donc c'est comme ça que le bouquin s'est construit, et puis après avec les lectures, je dirais, canonique, notamment par les apocryphes ou par certaines légendes, j'ai continué à nourrir mon récit.
Ça dépend quand même aussi des traductions, puis il y a quand même beaucoup d'actions, tout du moins dans l'Ancien Testament.
Alors l'Ancien Testament, c'est costaud, mais le Dieu vengeur de l'Ancien Testament est beaucoup plus intéressant que le Dieu un petit peu hippie du deuxième. D'ailleurs, il y a même des théories qui veulent que ces deux dieux, le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau Testament seraient deux entités différentes. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je voudrais pas gâcher la lecture du bouquin.
Philippe Battaglia, justement, en ce moment, depuis quand même plusieurs années, il y a une forte recrudescence de la religion dans le débat public, et que le rôle de l'humour, voire même de la fiction, sont plutôt remis en cause hein, quand il s'agit des caricatures publiées par certains journaux. Et donc, est-il difficile de publier un tel roman aujourd'hui ?
Je crois pas. En tout cas, l'Atalante m'a fait confiance. Je les en remercie. Je suis très, très fier de figurer dans leur catalogue. Il y a vraiment des grands, grands noms comme Terry Pratchett, Neil Gaiman, Michael Moorcock, Pierre Bordage. Enfin, il y a des grands noms dans le catalogue. Moi, je suis très fier d'avoir mon petit nom à côté de ces grands noms. L'Atalante m'a fait confiance. Jusqu'à maintenant, on n'a pas tellement eu de retours négatifs, à part peut-être dans les commentaires sous certains articles, mais je vous avoue, je ne vais pas forcément les lire. Mais pas d'attaque directe en tout cas. Mais parce que, à nouveau, on l'a dit en introduction, je ris avec ces personnages, je ris un peu de l'Église, mais je m'en moque pas méchamment en tout cas. Donc je suis pas dans cette posture d'attaque. Je pose un regard qui est le mien, qui est parfois un petit peu critique, mais je suis. C'est pas une attaque frontale, c'est pas un pamphlet contre. Je différencie vraiment la foi de l'Église. J'ai absolument rien contre la foi. Ça peut être une chose puissante, ça peut être une chose merveilleuse si ça aide les gens à aller mieux et à faire les choses un peu un peu mieux, ben, tant mieux. Par contre, l'Église, là, oui, non, là, j'ai un problème. Quelles que soient les Églises, d'ailleurs, les dogmes, les gens qui se proclament, qui s'auto-proclament porte-parole de telle ou telle entité divine, et puis qui souvent, derrière ce dogme, cachent des choses... parfois assez immonde, il faut bien le dire. Donc la foi, moi j'ai jamais attaqué la foi en tant que telle, parce que c'est pas, ça m'intéresse pas de le faire. Par contre, l'Église, la représentation humaine de cette foi, je pense qu'il y a de quoi dire, oui.
Oui, c'est ce qu'on ressent à la lecture du livre, hein, d'ailleurs. Hein. Ça apparaît bien ainsi. Et enfin, petite dernière question. Il a adapté La dernière tentation du Christ de Nikos Kazantzakis, Silence de Shusaku Endo. Est-ce que Martin Scorsese vous a contacté pour porter La dernière tentation de Judas au cinéma ?
J'adorerais ça. Non, alors évidemment, bon, le bouquin est sorti il y a un mois et demi, donc on est encore très loin de ça. Hein. Mais je pense que ça pourrait être adapté assez facilement, parce que moi j'ai pas de culture véritablement littéraire, j'ai pas fait d'études. Là évidemment pendant 5 ans j'ai croché sur ce sujet-là, mais enfin j'ai pas de background littéraire. Donc c'est vrai que ma culture à moi elle vient plutôt du cinéma, des séries, en tout cas des écrans, et puis des comics principalement américains. Donc je crois que ça se ressent un petit peu dans le découpage du livre, dans le découpage d'une scène, c'est très visuel, c'est très graphique, donc je pense que ça pourrait assez facilement être adapté. Et puis, bah, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent le faire, qui nous contactent, pourquoi pas.
Eh bien Thomas, Philippe Battaglia est aussi drôle et pertinent que le sont ses ouvrages, bien décidément. Il peut revenir quand il veut dans Culture Prohibée. Donc on rappelle, La dernière citation de Judas, signé Philippe Battaglia, disponible aux éditions La Talente. Mais on va un peu quitter la fiction, Thomas, parce que maintenant on va aller vers, comment dire, beaucoup de terreur, beaucoup d'effroi, puisque tu vas nous parler de demeures réellement maudites. Bah justement, ça tombe bien, le livre s'appelle Maudite demeure. Il est signé Philippe Difolco et Bertrand Pavlik. Il est disponible aux éditions du Rocher.
Oui, dans cette émission, nous aimons bien les histoires, films ou livres qui mettent en scène des maisons. De Henry James à Stephen King, en passant par Shirley Jackson, pour ne citer que quelques écrivains parmi les plus connus qui ont su nous remplir d'effroi en nous baladant dans les couloirs de bâtisses maudites. Oui, maudites ! Là est l'adjectif qui qualifie les habitations que décrivent l'écrivain et scénariste Philippe Difolco et l'avocat Bertrand Pavlik dans leur livre « Maudite demeure ». Paru aux éditions du Rocher, cet ouvrage relate 14 cas étranges et insolites qui mettent en scène une maison, un appartement, un château. Oui, le livre de Philippe Difolco et Bertrand Pavlik va vous offrir quelques frayeurs, mais pas forcément de celles dont nous avons l'habitude à Culture Prohibée. Ici, il s'agit d'un pavillon qui a abrité le quartier général allemand et d'un immeuble parisien dans lequel a sévi la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale, de la résidence d'un certain Henri-Désiré Landru, d'un appartement oublié durant des années par sa propriétaire, d'arnaques immobilières et autres logements situés en campagne et qui font rêver les Parisiens avant qu'ils ne tombent en plein cauchemar. 14 petites histoires vraies qui plongent parfois dans la grande. 14 histoires vraies qui nous font découvrir d'autres mondes, des habitudes de vie qui sortent de l'ordinaire, en plein Paris. 14 histoires vraies qui décrivent des aberrations architecturales. 14 histoires vraies qui relatent des incidents de parcours, des rencontres improbables, écrites comme de véritables petites enquêtes. Les auteurs savent créer le suspense, décrire des personnalités hors du commun dans de courts récits, qui n'ont rien à envier à des nouvelles policières tout droit sorties d'une anthologie à la Alfred Hitchcock présente. Alors que tout est vrai, certaines histoires font penser à des scénarios de films d'horreur, comme celui de Sinister de Scott Derrickson par exemple. On y découvre de mystérieuses malles dissimulées au fond d'un placard. On rencontre aussi des espions, une héritière décédée, une vieille dame atteinte du syndrome de Diogène. C'est quand on accumule chez soi... des objets divers, notamment les ordures qu'on ne met pas à la poubelle. Voilà, ça s'accumule et puis bah, je ne vous raconte pas le délire. Hein. On découvre une épouse qui fuit son mari pour une petite maison à la campagne. Seulement, ce n'est pas le bruit du clocher, le croassement des grenouilles ou le chant du coq Maurice qui va lui causer des soucis, mais bien d'autres bestioles et autres manifestations de la nature. Maudite demeure établit un constat d'une société qui n'assume pas toujours son passé, où la solitude fait bien des ravages, où les plus précaires sont toujours les victimes des gens sans scrupules. Pour autant, le livre ne donne pas dans la misanthropie facile ou le pessimisme à tout va. L'écriture se fait légère, parfois humoristique, et souligne la volonté de certaines personnes de se battre. En plus de ses qualités littéraires, Maudite demeure s'avère un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent investir dans un bien. La description des arnaques sont comme des manuels de ce qu'il faut faire avant d'acheter. Vous me direz, mais en fait, tout cela n'est pas très culture prohibée. Pourtant, la fameuse maison qui saigne de Saint-Quentin est bien évoquée pour mettre au jour une simple querelle familiale. Je vois poindre la déception sur le visage des amateurs de surnaturel, mais il y a bien ce chapitre dans lequel on croise un agent immobilier énigmatique, gardien d'un hôtel particulier situé avenue Van Dyck à Paris. Réputé invendable, Philippe Di Folco s'en va le visiter seul. Même si son équipée se déroule en plein jour, le récit qu'il en fait n'en donne pas moins froid dans le dos. Maudite demeure de Philippe Di Folco et Bertrand Pavlik est paru aux éditions du Rocher et je vous le recommande vivement. I just moved in my new house today. Moving was hard, but I got squared away. Bell started ringing and chains rattled loud. I knew I'd moved in a haunted house. Still I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something that give me the creep. Had one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the freeze. He did the stroll right up to me. Made a noise with his feet that sound like a drum. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space there sat a man on a hot stove with the pots and pans. I say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. Don't be here when the morning comes.